liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission Parole de citoyennes et citoyens. Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail. paroledecitoyens@frequence7.net, minuscule singulier tout attaché. Nous lisons tous les mails que vous nous adresserez. Au menu du jour, comme à notre habitude, une entrée, un plat de résistance et un dessert. En entrée, les citoyennes en action sur notre territoire. Nous devons traiter d'un projet particulier avec Anne en plat de résistance. Malheureusement, elle n'a pas pu être des nôtres, donc nous la retrouverons dans 15 jours. Du coup, il y a suffisamment de matière pour que l'entrée soit aussi un plat de résistance. Et nous terminerons toujours en solidarité avec le peuple palestinien génocidé et tous les peuples du Moyen-Orient victimes de la guerre, en partageant avec vous une recette d'un des pays du Levant. Surtout, prévoyez papier et crayon. Bon appétit! Alors, pour commencer l'entrée de résistance, nous allons parler avec Dominique des infos et événements sur notre territoire. Dominique, je te laisse la parole.
Alors, la première information dont on voulait vous faire part est le décès d'un de nos camarades, Gilles Reynaud, très connu tant de notre côté ici que dans la Drôme, mais aussi nationalement. Il est mort brutalement ce mardi 8 octobre à l'issue d'un déplacement pour l'Assemblée générale de l'Association nationale des commissions locales d'information auprès des sites nucléaires, où il avait pris la parole pour défendre les droits des salariés sous-traitants du nucléaire en tant que président de l'association Ma Zone Contrôlée. Gilles Reynaud, c'est un ancien salarié de Rano, Areva, etc., et qui avait créé l'association Ma Zone Contrôlée, qui s'est mobilisée depuis des décennies contre les mauvaises conditions de travail faites aux travailleurs, soit intérimaires, soit sous-traitants du nucléaire, et le nucléaire low cost que cela engendrait, et les risques qu'il y avait pour non seulement les salariés, mais aussi toute la population. Voilà, donc il partageait nos inquiétudes sur la baisse du niveau de sûreté des installations nucléaires, et en Ardèche on est particulièrement sensible à ça, parce qu'on a quand même non seulement des choses sur notre propre territoire, mais pas loin, d'autres pas loin. Ces obsèques se dérouleront ce jeudi à Donzère, à 10h30, à l'église. L'inhumation, parce qu'il est originaire de Saint-Vincent-de-Barrès, hein, donc aura lieu en Ardèche. La sortie de l'église, un hommage sera rendu à Gilles avec la chanson « Le Pieux » en version française que nous vous proposons d'écouter tout de suite.
La force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté, mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté.
Alors, une bonne nouvelle du côté de la gestion de l'eau. À l'occasion de sa première séance de questions au gouvernement au Sénat, le Premier ministre Michel Barnier s'est engagé à ce que le transfert de la compétence eau et assainissement aux intercommunalités, prévu pour 2026, ne soit plus obligatoire pour les communes n'ayant pas encore procédé à ce transfert. Celles qui ont bêtement obéi aux ordres, sans veiller à l'intérêt de leur population, se retrouvent les grandes perdantes. Alors maintenant, Dominique,
oui,
tu vas nous parler des bombardements au Liban et des incursions armées.
Oui, alors on a tous constaté que on va dire peut-être l'intensité du combat est maintenant un peu glissée vers le Liban. Elle continue, hein, bien sûr, à Gaza, mais ils ont déjà tellement tout rasé, massacré tellement de monde que du coup, c'est au Liban que ça se passe maintenant. Donc au niveau des bombardements au Liban, les frappes israéliennes contre les régions libanaises ne connaissent plus aucun répit, notamment dans le sud Liban, mais pas que, notamment à Beyrouth même, la capitale, qui est quand même une ville de plusieurs millions d'habitants, hein, je le rappelle, c'est pas rien de bombarder une capitale, mais aussi dans le nord du Liban, jusque pas loin de la frontière turque et syrienne. Ainsi, mardi, la ville de Baalbek et les villages tout alentour ont subi plein de frappes israéliennes. Enfin, tous les jours, les choses graves se produisent. La zone de Baalbek a donc été touchée avec des localités largement détruites. Et on a vu aussi qu'un camion arborant des drapeaux de la Croix-Rouge et qui avait obtenu l'autorisation de l'ONU pour acheminer de l'aide a été bombardé par l'armée israélienne.
Alors, face à ces bombardements sans limite là, du gouvernement israélien, il y a plusieurs nations quand même qui ont lancé des initiatives humanitaires pour apporter leur soutien à la population libanaise.
Oui, alors en sachant que la population libanaise, le Liban accueillait déjà 1 million de réfugiés syriens de la guerre en Syrie, donc c'est le pays peut-être du monde qui accueille le plus de réfugiés à la base en regard de sa propre population, accueillait déjà depuis 1948 et les années suivantes des Palestiniens réfugiés, donc il y en a énormément au Liban, et là-dessus maintenant c'est aussi la population libanaise elle-même qui est réfugiée dans son propre pays.
Je crois qu'il y a plus d'un million de déplacés, il
tout
me semble.
Fait, tout à fait. Donc ça, c'est une vraie catastrophe dans un État qui, on le sait, non seulement s'est effondré de par les guerres précédentes, mais en plus il y avait eu la catastrophe, l'explosion du port il y a 2 ans, je crois, ou je sais plus, il y a 3, un peu plus peut-être maintenant, qui avait ravagé la capitale. Enfin, donc vraiment, et un État moribond en termes de ce que peut apporter un État, quoi. Et donc c'est là-dedans que effectivement du coup il y a un certain nombre de nations qui ont lancé ces initiatives humanitaires pour aider la population. Donc l'Arabie Saoudite a mis en place un pont aérien de secours vers le Liban, avec, je crois que le premier est arrivé lundi, et puis l'un est arrivé d'autres depuis. Un avion omanais chargé de 40 tonnes d'aide médicale et humanitaire est arrivé également. Un convoi de 5 camions chargés d'aide a été envoyé par l'Émirat arabe uni et la Turquie. La Turquie avait envoyé déjà 300 tonnes d'aide humanitaire au port de Beyrouth, comprenant du tas de matériel, notamment des tentes, du matériel de soins, mais aussi du matériel de vie, quoi, de survie. Le Qatar est arrivé avec 50 tonnes de fournitures médicales, de secours livrés, etc., etc. Ça continue tous les jours. Pendant ce temps...
en France, qu'est-ce qui se passe? Il y a des aides?
Nous, on a des beaux discours de Macron, hein, qui prétend que le Liban est un ami et qui, de fait, ne fait pas grand-chose, puisque la France, qui est une des plus grandes puissances économiques, notamment par la vente d'armes qui lui rapporte beaucoup d'argent, qu'elle fait pour ces guerres-là aussi. Et bien pour les amis libanais, la France, le 29 septembre à Beyrouth, a livré 12 tonnes de médicaments et de matériel médicaux avec l'Union européenne, hein, pas toute seule.
C'était pas des médicaments périmés, j'espère.
Oh, on sait jamais, ça, je sais pas les vérifier. Et 27 tonnes le 8 octobre, en association avec le Qatar. C'est tout pour l'instant. D'accord. Avec 10 millions d'euros pour aider la Croix-Rouge libanaise. C'est-à-dire, c'est largement en dessous de tout, quoi.
Et au niveau de la diplomatie, Dominique, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Alors, une nouvelle démarche a été effectuée par l'État libanais auprès de l'ONU, qui a déposé une nouvelle plainte contre Israël auprès du Conseil de sécurité. Cette plainte, elle est axée sur les effets qu'a l'offensive israélienne sur le secteur éducatif au Liban. Donc, il a inclus toutes les données, les chiffres qui concernent les élèves et les enseignants déplacés dans tous les domaines, que ce soit l'éducation publique ou l'éducation privée, avec la liste des écoles, des universités, des bâtiments éducatifs hors service ou qui, de fait, sont obligatoirement transformés en centres d'accueil pour la population déplacée. Donc, il est demandé aux États membres du Conseil d'intervenir de toute façon urgente pour stopper l'offensive israélienne et permettre aux enfants de retrouver une vie à peu près normale, si c'est encore possible aujourd'hui. Alors, dans le même ordre d'idée des mouvements diplomatiques, si on peut appeler ça diplomatie, l'ambassade israélienne vient maintenant, l'ambassade américaine.
Ah vient, oui, c'est un lapsus,
un lapsus, je pense. C'est pas de l'ambassade israélienne, il n'y en a jamais eu, puisque dès 48, la guerre a été déclarée par Israël au Liban. L'ambassade américaine a lancé lundi un nouvel appel à ses ressortissants pour quitter le Liban sur le champ. Alors, c'est un nouvel appel, pourquoi ? Parce que ils en ont déjà lancé, sauf que, bah, visiblement, tout le monde ne veut pas partir, quoi. Les Libanais, et y compris les binationaux, il y a énormément de binationaux au Liban, veulent rester et défendre leur pays. La FINUL de son côté, donc vous savez que Israël s'est permis d'attaquer les casques bleus, la FINUL a publié une déclaration très ferme qui condamne les violations contre son poste Liban Sud, et le fait que l'armée israélienne l'empêche de se déplacer comme elle l'entend à la FINUL, donc en la bombardant, en faisant des mouvements de troupes.
Elle lui a même demandé de partir en fait.
Exactement, Netanyahou a demandé au casque bleu ben, aller ailleurs. Donc, franchement, c'est une honte.
Alors, du coup, on continue les rassemblements le samedi.
Et voilà, on continue les samedis. On a ajouté au drapeau palestinien, on a ajouté le drapeau libanais. Et puis, on espère qu'on ne sera pas obligé d'en rajouter quelques autres d'ici peu.
Donc, c'est tous les samedis à 11h à l'Agora, à Aubenas.
Voilà.
Et donc, pour aborder un sujet, à la fois différent, mais... j'ai assisté à une conférence jeudi dernier... de Raphaël Granvaux, et donc je vous laisse écouter une petite extrait musical avant.
Il cautionne la dictature, tout ça pour nous affamer. Il pille nos richesses pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. La politique France-Africa. C'est du blague et tu es. La politique America, Africa, why, why, c'est du blague et tu es. La politique France, Africa, c'est du blague et tu es.
Alors voilà, bah, c'était très intéressant comme conférence. Donc Raphaël Granvaux qui a écrit un livre, encore un livre de plus, c'est De l'huile sur le feu. Et en fait, ça parle des relations encore actuelles entre. La France et certains pays d'Afrique et comment les conflits armés, comment les conflits armés se déroulent en fait, voilà. Donc maintenant, à présent, on va parler de, comme il y a beaucoup de sujets que notre émission est bien remplie, on va parler de Saint-Péray et du barrage de Collanges. Donc l'affaire du barrage de Collanges, c'est une, comme vous l'avez entendu sûrement, c'est une pollution catastrophique de la rivière après l'ouverture du barrage de Collanges pour le vidanger. Depuis des mois, des associations de pêcheurs et de protection de la nature alertaient les pouvoirs publics sur la nécessité de ne surtout pas lâcher d'un coup, comme prévu, les vannes, ne pas ouvrir les vannes, mais d'utiliser d'autres méthodes, en veillant à retirer les boues toxiques du fond. Les élus départementaux, la préfecture, n'ont pas tenu compte de ces conseils. Résultat, la mort de toute vie dans la rivière sur plusieurs kilomètres. Une pollution aux métaux lourds dont on ne peut mesurer aujourd'hui la durée et les conséquences, notamment pour l'eau potable des habitants de la vallée. Mais quand est-ce que nos élus et nos représentants de l'État comprendront que les citoyens ne sont pas des imbéciles et qu'ils méritent d'être écoutés pour le bien de tout le monde ? Il faut maintenant arrêter cette vidange, concerter tout le monde. Réaliser des études fiables par des organismes indépendants de ceux qui décident. Il n'y a aucune honte à reconnaître une erreur, mesdames et messieurs les élus. Par contre, honte à celles et ceux qui nient le problème juste pour leur propre gloire, quoi. À Saint-Péray, nous avons des écureuils sur les arbres. Alors, c'est des écureuils humains, en fait, c'est des écureuils ardéchois. Qui défendent, ils s'opposent au projet de la déviation du contournement qui va détruire des hectares de terres agricoles. Et évidemment, il faudra encore couper des arbres. Donc certains se sont installés en haut des arbres qu'ils veulent protéger. Ils ont suivi l'exemple des méthodes de protection de l'environnement qui ont été utilisées pour le projet de l'autoroute A69 dans le sud-ouest. Et comme vous le savez, malheureusement, les écureuils du sud-ouest ont été comment dire, éjecté des arbres. Ils les ont fait tomber des arbres et ça a été assez grave pour certains d'entre eux. À Saint-Pierre-de-Colombier, dans la vallée de la Besorgue, que ce soit donc à côté de chez nous, l'implantation de, panneaux agrivoltaïques. Nous ne savons pas trop comment nous allons pouvoir protéger ces environnements. Et il serait temps quand même d'en débattre avec les habitants. À présent, nous allons écouter une musique pour introduire un nouveau sujet.
Il annonce des chiffres à panique dans l'air. Bruno Le Maire les compte au bord du désert. Le déficit crame, c'est la chute. La chute. Il veut sauver sa pomme, mais c'est lui qu'on incrimine. Des coupes, des milliards à trouver. Mais les plus fragiles, c'est eux qu'il va saigner. Il dit, je n'y suis pour rien, il se dédouane. Mais c'est son bilan qui résonne dans la panne.
Alors Dominique, au niveau des écoles, hôpitaux, EHPAD, services communaux, est-ce qu'il y a une crise d'austérité annoncée?
Ah ben largement, parce que pendant que Bruno Le Maire, comme le dit cette chanson, part se mettre au vert en Suisse, à l'abri de nos récriminations, eh ben c'est Michel Barnier qui est chargé de nous annoncer la cure.
Michel Barnier?
Barnier.
C'est qui celui-là?
Oui, oui, c'est grand Barnier. J'avais soif. Alors il nous annonce à quelle sauce il va nous manger, quoi, en fait. Hein. Nous, enfin, toute la France. Donc. Alors un effort de près de 60 milliards nous est demandé, nous, pauvres petits habitants. 40 milliards de coupes dans les budgets, donc ça, on sait que c'est nous qui allons les payer, parce que ça sera moins de choses à notre disposition et qu'on va être obligé de compenser d'une façon ou d'une autre. Et près de 20 milliards de recettes en moins, donc ça aussi, c'est nous qui allons grosso modo les payer. Donc ça fait bien 60 milliards donc qui vont nous tomber sur la tranche.
C'est pas les plus riches qui vont faire des efforts?
Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, quand j'ai regardé le détail, alors, on voit que, par exemple, il y a des choses qui sont décidées, drastique. Hein. Vous allez avoir on va avoir le temps d'en reparler, à mon avis, parce que tout va aller se cacher dans les moindres petits détails maintenant. Mais grosso modo, il y a des choses qui sont décidées et qui sont décidées, une fois pour toutes. Voire pire l'année suivante, hein, parce que ça, c'est le budget d'un an. Hein. L'année suivante, c'est kiff-kiff. Hein. Donc ça veut dire rebaisse et re-économie. Donc là, par exemple, baisse des prestations chômage. Ben, elles vont baisser. Personne ne vous annonce que c'est pour 3 mois et qu'ensuite ça va remonter. Hein. Voilà. Donc on
ça
diminue.
Ça n'a pas été, c'est pas voté tout ça.
Ah, c'est en cours, hein. C'est présenté à l'Assemblée nationale et ça va chauffer à mon avis. Mais voilà ce que Barnier nous propose. Donc, et puis que visiblement, comme le Rassemblement national a l'air de vouloir soutenir le gouvernement, on va voir s'ils vont voter ça aussi comme ils ont dit qu'ils allaient le faire. Enfin voilà. Donc, on se rend compte que nous, tout ce qui va nous coûter à nous, c'est-à-dire les indemnités chômage, les indemnités journalières en cas de maladie, etc., etc., ça, c'est annoncé définitivement. Et puis, quand on arrive sur des chapitres comme la taxation des plus riches, par exemple, les bénéfices des grosses sociétés, là, c'est marqué temporaire, c'est marqué exceptionnel. Voilà. Pareil pour les impôts sur le revenu, pour les ménages les plus riches. On sait qu'il y a des ménages extrêmement riches, les familles Bernard Arnault, etc., ils ne manquent pas d'argent. Ben, cela, c'est exceptionnel et temporaire aussi. Alors que tout ce qui nous tombe sur la figure à nous, c'est annoncé comme étant pérenne, quoi, définitif, voire pire l'année prochaine. Donc c'est bien un problème quand même de savoir que c'est nous qui allons en baver le plus, toute la population. Et ce qu'on peut aussi regarder de plus près, c'est qu'est-ce qui se passe pour un département comme l'Ardèche. Dans un département comme l'Ardèche, on sait que l'essentiel de l'économie, c'est deux piliers. L'essentiel des emplois, de l'activité économique, c'est les services publics et c'est le tourisme. En Sud-Ardèche, c'est ça. Les services publics, c'est l'argent public, ce sont nos impôts qui payent les services publics, c'est le budget de l'État en général, quoi. Depuis des années, déjà, on paye dans nos départements ruraux la baisse des financements publics votés année après année par nos députés, et y compris les députés ardéchois. Donc les territoires ruraux ont été les premiers qui ont été touchés par tout ça. Ça commence à gagner les autres territoires actuellement. Les territoires urbains aussi sont maintenant atteints par cette politique. Sauf que nous, on est déjà au plus bas. En rajouter une couche, ça va être terrible pour nos services publics en Ardèche. Donc, on sait que ben, nos hôpitaux vont avoir encore moins, nos écoles vont avoir encore moins. Ça, déjà, aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'école, moi, je vois ma petite fille, par exemple, ben, institutrice pas remplacée, absente de tous les vendredis, là, ben, elle n'est pas remplacée.
Les AESH aussi, voilà. Il en manque, quoi.
Voilà, on manque de tout actuellement dans les services publics. Les guichets ferment, on nous fait des soi-disant France Service, je ne sais pas quoi, là, où à distance on va avoir les infos. Rien du tout, ça ne règle aucun dossier, ces trucs-là. Ça ne remplace pas des agents publics qui viennent traiter nos dossiers comme on en a besoin, quoi.
Mais au niveau des postes d'enseignants, il y avait eu une baisse des postes?
Oui, alors non seulement il y a déjà eu des baisses de postes, mais ils annoncent la suppression de 4000 postes d'enseignants à nouveau maintenant. Pour cette année, n'oublions pas que ça risque d'être pareil l'année suivante, hein, puisque c'est un déficit structurel. Et pendant ce temps, alors qu'ils nous annoncent la baisse de 4000 postes d'enseignants dans l'enseignement public, pendant ce temps, l'État investit 14 milliards d'argent public dans l'enseignement privé et 4 milliards dans le SNU. Le SNU, vous savez, c'est le soi-disant truc gentil là, pour dresser les enfants, pour leur apprendre l'obéissance et tout, là, le service national, je ne sais plus quoi, unitaire ou unique.
Le SNU, service national
universel.
Universel.
Voilà, c'est universel, voilà. Alors qu'avec 200 millions d'euros, on peut titulariser 119 000 AESH, qui aujourd'hui sont en général en CDD. Voilà, donc les calculs sont vite faits. Hein. On voit bien que c'est des choix qui sont à l'œuvre pour laminer les services publics. Mais quand on vit en milieu rural et qu'il n'y a plus de services publics, on meurt.
Et au niveau du tourisme, alors, qu'est-ce qui peut se passer?
Alors au niveau du tourisme, déjà, on se rend compte que de plus en plus, le pouvoir d'achat des Français en général allant diminuant, et puis pas seulement des Français, puisqu'il y a aussi, c'est une politique qui est appliquée dans toute l'Europe. Donc nous sommes une destination touristique pour de nombreux Européens, pas que des Français. Mais le pouvoir d'achat de tous ces gens-là va diminuer, donc ils vont de moins en moins venir, et ils vont dépenser de moins en moins. Donc c'est toute notre économie touristique qui va s'effondrer. Ce sur quoi nos élus misent et mettent de l'argent là depuis des années va s'écrouler progressivement. Et en plus, c'est un secteur dans lequel la précarité est très grave. Donc ça veut dire que nous sommes un territoire dans lequel il y a beaucoup de gens avec du chômage partiel ou intermittent, du RSA, etc. Et toutes les attaques qui vont être portées contre les indemnités de chômage vont être ressenties très fortement localement.
Dominique, je vois le temps filer. Est-ce qu'on aura le temps de parler de l'accord de libre-échange du Mercosur ?
Oh ben rapidement, pour dire qu'il y en a une couche de plus, c'est-à-dire que, alors que Macron a dit que il était contre cet accord de libre-échange, et ben de facto, il est en train de se tricoter tranquillement dans son coin, et l'Union européenne est en train de finaliser cet accord. Donc on sait que c'est un accord qui coûtera très cher au monde agricole, au vrai monde agricole, au monde paysan, pas forcément aux grosses industries agroalimentaires, hein, mais par contre, à nos paysans, oui. Oui, oui.
On peut écouter une petite musique pour se détendre un petit peu.
Les gauchos pas contents vont râler évidemment. Ils sont comme ça,
ils sont comme ça.
Les gens d'en bas,
les gens d'en bas.
Mais pas le temps de pleurnicher, faut aller voter le budget. Qu'est pas Jojo,
qu'est pas Jojo.
Merci Bruno, il veut améliorer la réforme des retraites.
Je comprends,
vous verrez que je suis ouvert au compromis. Je suis pas contre monter l'âge à 65 ans, comme Barnier l'a proposé. Il y a 3 ans, c'était brillant. Michel Barnier, ohé, ohé.
Alors, vous aurez reconnu les goguettes, hein, comme groupe. Alors maintenant, je vais vous parler santé, des infos de l'hôpital d'Aubenas, qui a annoncé l'arrivée d'un médecin généraliste, le docteur Maher Mansouri, qui rejoint les équipes de médecine polyvalente en tant que médecin généraliste. Nous avons appris que 5 communautés des communes, Ardèche sur ses volcans, Bassin d'Aubenas, Berguet-Coiron, Gorge de l'Ardèche et Val de Ligne, se sont lancées avec l'Agence régionale de santé dans la réflexion d'une mise en place d'un contrat local de santé. Dans le contexte général et local de catastrophes sanitaires en vue, un tel chantier nous paraît indispensable à suivre en tant que citoyen. Je n'ai pas le temps de vous donner la définition officielle de ce contrat local de santé. Mais la première étape est la réalisation d'un diagnostic local de santé sur les 5 communautés de communes. Pour ce faire, un des moyens est un entretien collectif habitant. La semaine prochaine, des associations vont y être associées, peut-être des habitants aussi. On ne sait pas trop comment. L'association des usagers de l'hôpital d'Aubenas y participera, mais vous pouvez contribuer en nous faisant part de votre diagnostic. L'état de santé des habitants et l'accès de ces derniers aux ressources de santé, dispositifs de prévention, de promotion de la santé, etc., et vos demandes et propositions. Pour cela, plusieurs moyens possibles, par mail à l'adresse de l'émission, qu'on vous redonnera à la fin de l'émission, sur la page Facebook Info Mouvement Citoyen-Novembre 2018, la page des Gilets jaunes du Sud-Ardèche, où il y aura une publication, sur la page Facebook de l'Association des usagers de l'hôpital d'Aubenas, qui fera aussi une publication. Et maintenant, il est plus que temps de passer au dessert, donc on va s'écouter une petite musique orientale pour démarrer. Alors, on a tout juste le temps de vous parler de la recette. Donc, Dominique, tu peux nous dire...
Oui, je vais essayer de la faire rapidement. Donc, d'abord, vous dire que c'était une dabke, une danse commune aux Libanais et aux Palestiniens. Alors, on parle abricots. Les abricots, c'est un fruit emblématique au Moyen-Orient qu'ils ont l'habitude d'utiliser et de conserver. Il est fameux, hein, c'est un des meilleurs du monde, à mon avis. Et de le conserver avec les abricots, c'est la pulpe d'abricot qu'on écrase, fait sécher en feuilles minces au soleil. Ça fait une pâte qu'on peut ensuite utiliser toute l'année pour réaliser tout un tas de recettes. On appelle ça amreddine. Avec, on peut faire une boisson qui a le même nom, amreddine. On retrouve cette recette depuis la Syrie jusqu'à l'Égypte. Il faut 200 g de pâte d'abricot amaredine que vous trouverez dans des magasins spécialisés, comme on en a un au Bonnard, 900 ml d'eau bouillante, 40 g de sucre, ou plus si vous avez envie, et des glaçons. Dans un bol, on coupe tout ça, tous les morceaux de pâte d'abricot en petits bouts, on ajoute de l'eau bouillante, on laisse reposer en mélangeant de temps à autre. Quand la pâte d'abricot a complètement fondu, en général il faut une bonne heure, bien mélanger, ajoutez alors le sucre. On met dans un pichet, on réfrigère et au moment de servir, on ajoute des glaçons. Vous aurez votre sirop d'abricot, votre jus d'abricot pour toute l'année, même hiver.
Alors, il est temps de rappeler le mail de l'émission parole-de-citoyen@fréquence7.net et de vous dire à dans 2 semaines. On remercie Sylvain à la réalisation et je vous dis à bientôt.
Au revoir. Merci Sylvain de ta patience.
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré compte.